remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8, tous les mercredis en direct, de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce mercredi, eh bien, j'ai une invitée surprise. Vous ne devinerez pas qui. Je vous laisse quand même un petit peu l'eau à la bouche. Eh bien, je vous la laisse faire écouter d'abord peut-être une petite phrase. Je suis sûre que c'est une voix que vous connaissez très très bien, que vous n'avez pas oubliée au tréfonds de votre oreille.
Tu penses qu'on était si populaire que ça? Vraiment?
Bien sûr, Marianne, évidemment, bonjour. Je pense qu'on était très populaire. Sans fausse modestie, mais les femmes qui nous écoutent, je suis sûre qu'elles se rappellent ta voix. En tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors Marianne, bienvenue de retour de l'Afrique lointaine. En passant par la Provence, dans les studios de Radio Zone 93.8, parce que si jamais vous ouvrez à cet instant-là votre radio, eh bien, eh oui, vous êtes dans Remue-ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, en direct de 17h à 18h30. Et vous retrouverez après ça les informels de Radio Pleine Lune, et puis Cause Toujours Tu M'intéresses ce soir, point chaud de la semaine, dernier sprint avant l'arrivée, puisque nous parlerons énergie nucléaire avec des femmes. Et puis, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez nous entendre demain matin. Si par hasard, vous devez débrancher en cours de route, eh bien, vous nous retrouvez demain matin à 11h, dès le début d'une matinée, qui, je pense, devrait vous laisser le temps de nous réentendre si maintenant vous devez vaquer à d'autres occupations. Si jamais vous le voulez, vous pouvez toujours nous appeler en direct, parce que là, maintenant, on est dans le studio, n'est-ce pas, Marianne? Toute prête à répondre à vos questions au 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis Genève, 00 33 depuis la Suisse romande, ou toute la Suisse en entier, si jamais on a des relais ultra puissants en Suisse. Marianne ouvre de grands yeux. Mais oui, on nous entend ailleurs qu'à Genève, c'est sûr. Alors aujourd'hui, notre menu, eh bien, je vous en avais déjà un petit peu parlé il y a 15 jours, quand je vous avais fait comme ça un petit tableau de tout ce que nous pourrions vous présenter comme type d'émission dans Remue-ménage. Eh bien, je vous avais annoncé une rencontre avec une femme algérienne, Karima, en l'occurrence, que j'ai pu rencontrer grâce à Evelyne Merlard, qui l'a elle-même rencontrée lors d'un séminaire sur la paix. Et Karima nous a raconté un petit peu ce qu'elle ressent de la situation de la femme algérienne aujourd'hui. Mais on en reparle un petit peu plus en détail tout à l'heure. Marianne, toi, tu as aussi pris contact à propos de la femme algérienne qui nous ajoutera quelque chose à partir du témoignage de Karima.
Si, nous avons de la chance. Nous avons contacté Béatrice Peter-Schmidt à Londres, qui est réalisatrice et qui a commencé un documentaire précisément sur la femme algérienne. Alors, on espère pouvoir être en ligne avec elle à 18h.
You'd be a vision in white, better than ever, street.
Thank you.
On a entendu parler beaucoup de bouleversements dans l'Algérie depuis 1988, surtout après les manifestations qui ont amené à une certaine ouverture, à plus de démocratie dans le pays, en particulier avec l'avènement ou le début d'un pluripartisme contre le parti unique qu'était le FLN, Front de Libération Nationale, formé pour, au moment de la fin de la colonisation dans la guerre face à la France. Et bien sûr, tous ces grands changements ont amené un grand espoir, bien sûr en Algérie, ça on peut l'imaginer, mais aussi chez nous, pour tous les gens qui suivent depuis longtemps ce qui se passe dans ce nouveau pays qu'était l'Algérie en 1962. Mais ces grands changements ont aussi amené de l'inquiétude, puisque en même temps que l'ouverture au pluripartisme est arrivée l'expression d'un nouveau parti, d'une nouvelle voix qui était celle du Front islamique du salut, c'est-à-dire celui de l'intégrisme musulman. Et bien sûr, avec l'arrivée de l'intégrisme, comme en Iran, comme partout dans le monde arabe, eh bien, c'est évidemment l'aggravation de la situation de la femme qui arrive avec l'intégrisme musulman. Et bien sûr, beaucoup d'entre nous ont été extrêmement préoccupés de la victoire du Front islamique du salut aux dernières élections municipales en Algérie en juin 90. Alors, cette préoccupation, elle a sûrement bien sûr des fondements, puisque sans problème, le FIS, donc Front islamique du salut, a affirmé que les femmes sont le mal en personne et qu'elles sont les responsables de tous les maux dont souffre l'Algérie aujourd'hui. Difficultés, bien évidemment, avant tout économiques. Mais qu'en est-il pour nous, qu'en est-il des femmes et surtout par rapport à ce que nous pensons de ce qu'est la libération des femmes, nous, notre conception de femmes occidentales? Parce que est-ce que vraiment on peut se permettre de penser par rapport à l'Algérie comme nous pensons par rapport à l'Europe, par rapport à la Suisse? Parce que je crois que c'est pas tout à fait équivalent tout le temps aux espoirs qu'ont les femmes ailleurs qu'en Europe par rapport à leur propre libération. En l'occurrence, le journal Femmes Suisses, le dernier numéro sorti, évoque aussi le problème des femmes algériennes dans un article fort intéressant qui a pour titre « Algérienne à la recherche d'une identité » et qui, elle aussi, pose le problème de comment nous, féministes occidentales, pouvons-nous essayer d'oublier notre approche par rapport à notre propre libération et essayer de s'imaginer ce que les femmes algériennes, elles, ressentent. Et d'ailleurs, en cela, elles ont donné la parole à Khalida Messaoud, qui est représentante de l'association indépendante pour le triomphe des droits de la femme, et qui dit « Il est très pénible de sentir le regard que l'on a sur nous, un regard d'occidentaux sur les, entre guillemets, barbares d'Algérie. Faire taire ces télés qui donnent toujours ces images simplifiées, caricaturales de la situation. Regardez plutôt les gens qui luttent, les femmes qui se battent pour leurs droits. » Sans aucun doute, bien sûr, les agressions faites aux femmes algériennes sont multiples et sordides. Une peur atroce les envahit et une autocensure s'installe qui alimente cette peur, explique par ailleurs Shafia, qui est membre de l'Association des femmes à Constantine. Constantine qui est un lieu depuis longtemps de tradition intégriste. Les femmes ne sont pas pour autant paralysées. De nombreux observateurs et les femmes elles-mêmes estiment que ce sont bien elles les plus combatives de la population algérienne. Elles n'ont pas attendu le verdict des urnes et le résultat du FIS pour comprendre que le vent de l'intégrisme les menaçait et menaçait la société dans son ensemble. D'ailleurs, le 8 mars dernier, elles étaient 25 000 dans les rues d'Alger pour dénoncer les excès d'une société machiste. Et puis, réunies en coordination nationale les 28 et 29 juin dernier, les associations de femmes ont décidé de prioriser la lutte pour une loi électorale démocratique restituant aux femmes le plein droit de vote et pour la défense du droit au travail. Sans attendre, les jardinières d'enfants, les sages-femmes se sont organisées pour défendre leur poste de travail et ont fait grève. Mais les médias n'ont pas cru utile de faire savoir largement cette mobilisation des femmes. Alors, nous avons eu la chance, comme je vous le disais tout à l'heure, de rencontrer une jeune femme algérienne, Karima, qui était par chance de passage à Genève et que Evelyne Merlard a rencontrée dans le cadre d'un séminaire de l'éducation à la paix. Karima a fait des études en sciences politiques, donc elle a une éducation universitaire, elle a 27 ans, elle est mariée, n'a pas encore d'enfant et elle a un poste de travail aujourd'hui au ministère des Mines. Nous avons pensé qu'il était intéressant, Evelyne et moi, de passer par l'histoire d'une femme, sa propre histoire toute simple, qui n'est pas celle des femmes, qui n'est pas forcément très représentative de toutes les femmes algériennes. En tout cas, pour nous, il est difficile de s'en rendre compte. Mais de savoir ce qu'elle, elle pensait. Ce qu'elle pensait d'ailleurs de ce qui était dit dans cet article, parce qu'elle l'avait aussi lu, elle n'était d'ailleurs pas toujours d'accord avec ce qui était écrit, enfin surtout dans l'analyse de la pression qui était graissée, faite aux femmes par l'intégrisme en Algérie. Alors, partons tout de suite de son histoire à elle et qui, nous l'espérons, permettra de comprendre un petit peu mieux l'histoire des femmes d'aujourd'hui en Algérie et peut-être par la même occasion, les femmes aussi d'hier.
Bon, 27 ans, ça veut dire que tu es née au lendemain de l'indépendance, que tu n'as donc pas vécu la guerre et que c'est peut-être ta mère qui t'a raconté toutes ces histoires-là. Est-ce que justement dans ta famille, on se raconte les histoires de femmes depuis, pendant la guerre, pendant la colonisation même peut-être déjà, et depuis l'indépendance?
Oui, bien sûr. Bon, ma mère, elle est jeune, c'est pas elle qui m'a raconté directement. Mais c'est plutôt ma grand-mère, mes grandes-tantes qui m'en racontent parce qu'ils ont vécu pleinement la guerre depuis qu'elle a commencé. Donc la femme algérienne, pendant la guerre de libération, a eu beaucoup d'activités. Elle était très, très active, impliquée dans la guerre à côté des hommes égal à égal. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire, par exemple... le travail qui pouvait aller de l'intérieur de la maison, comme par exemple préparer les repas pour les moudjahidines qui sont dans les montagnes, jusqu'à porter des bombes dans leurs couffins. Donc, elles participaient comme elles pouvaient. Elles emportaient aussi les armes dans les lieux de combat, à côté des hommes.
Et tout ça, tu le sais parce que c'est ta grand-mère qui t'a raconté ça. Ta mère elle-même n'a pas participé à ça.
Non, ma mère non, parce qu'elle était assez jeune. Et elle n'a pas pu participer directement, mais elle nous racontait aussi qu'est-ce qu'elle voyait. Elle a manifesté dans la rue les années 58, même avant 58, parce qu'elle s'est mariée en 58. Donc, c'est plutôt ma grand-mère, mes grandes-tantes qui ont participé pleinement, parce que c'était une génération qui avait l'âge moyen à cette période-là.
Mais ta mère, elle, est-ce qu'elle ne te raconte pas quelle a été sa vie de femme depuis qu'elle s'est mariée? Tu as des frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs peut-être. Est-ce qu'elle te raconte sa vie de femme? Est-ce qu'elle vous transmettez avec tes sœurs, tes tantes, puisqu'effectivement le cercle familial est beaucoup plus large que chez nous? Est-ce que vous vous racontez vos histoires de femmes? Est-ce qu'elles te transmettent ça?
Oui, la transmission existe, mais ce qu'on remarque surtout, c'est la différence en peu de temps et l'évolution de notre situation en tant que femme. Parce qu'on vit une situation vraiment très différente de celle vécue par soit nos mères, soit nos tantes, soit nos grands-mères. Par exemple, moi, ma mère, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans et demi, en 1958. Elle a commencé tout de suite à avoir des enfants. Elle a été une année à l'école seulement, parce que ce n'était pas possible, point de vue économique surtout, parce qu'elle avait beaucoup de frères et sœurs, donc elle est restée à la maison pour aider sa mère. C'était l'aînée des enfants. Et bon, elle a eu, après, 5 enfants. Moi, je suis l'avant-dernière. J'ai une grande sœur mariée, aussi un grand frère qui est marié, et un autre garçon plus âgé de moi d'une année, une plus jeune sœur qui a 20 ans en ce moment. Elle aussi, elle fait des études universitaires. Et quand ma mère me raconte sa vie de femme, je vois, je suis frappée par la différence qu'il y a. Par exemple, elle n'a pas été à l'école. Moi, j'ai suivi mes études jusqu'au bout. Elle n'a pas travaillé. Moi, je travaille. Elle n'a pas choisi son mari. Moi, je l'ai choisi. Donc, c'est un bouleversement plus qu'une continuation. Et je crois que ce bouleversement qui s'est passé trop vite a induit des... Si je puisse dire, c'est un peu trop fort, mais je peux dire un choc. Des fois, le courant ne passe pas entre l'ancienne génération. Je voudrais préciser la génération d'avant la guerre de l'indépendance et la génération d'après. parce que les choses ont très vite évolué dans tous les sens.
Mais par exemple, ta mère, elle est choquée par la vie que tu mènes, toi, parce que tu peux vivre et qu'elle n'a pas pu vivre. Ou elle se trouve justement entre les deux, elle.
Non, elle n'est pas choquée. Au contraire, ça lui fait plaisir. D'ailleurs, on parle souvent de cela. Elle me dit souvent que je suis très contente que mes filles ont fait des études, ont travaillé, ont fait, si on peut dire, ce qu'elles veulent de leur vie, mieux que moi. Donc, son but à elle, c'était d'arriver à ça. Et elle est maintenant toute contente parce qu'elle est arrivée, finalement. D'ailleurs, des fois, elle me dit, moi, je me battrai pour que mes filles fassent tout ce qu'elles veulent, tout ce que moi, j'ai souhaité, j'ai pas pu faire. Par exemple, surtout l'école, qu'elle regrette beaucoup.
Mais elle n'a pas pu le faire à cause de quoi ?
Premièrement, c'était la période de la guerre. Les conditions étaient très difficiles, l'insécurité, moyens économiques très restreints, familles nombreuses. D'ailleurs, même les garçons n'ont pas fait des études très poussées. Par exemple, les Français, quand les Algériens arrivaient à un certain degré, un certain niveau, ils étaient obligés de quitter l'école pour les orienter vers le travail, la formation professionnelle. C'était un privilège. Mais par contre, nous, on a bénéficié de la période d'après indépendance et le droit à l'enseignement populaire, si on peut dire.
Et quand ta mère te dit, moi, je me battrai pour que mes filles puissent continuer à faire ce qu'elles ont envie de faire, ça veut dire qu'elle suspecte quoi ? Elle sent qu'il va y avoir des batailles pour que tu puisses, toi et tes sœurs, continuer à vivre ce que vous avez envie de vivre ?
Non, pas tout à fait, mais je reviendrai à ce que j'ai dit, c'est cet affrontement entre l'ancien et le nouveau. Il n'y a pas eu vraiment une évolution, si je puisse dire, générale, qui a concerné tout le monde. Il y a eu la cassure entre la première génération et la seconde, et c'est ce qui crée des fois des affrontements. De la non-compréhension. C'est surtout ça, la non-compréhension.
Cassure a pu-t-elle se faire si rapidement ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les femmes qui, à un moment donné, ont réussi à vraiment imposer le fait qu'elles avaient, la nouvelle génération, le fait qu'elles avaient envie de vivre différemment. Comment ça a pu se faire si vite ?
Oui, c'est les femmes qui sont imposées. Parce que la guerre leur a fourni, si on peut dire, un outil. Une chance de percer. Parce que, comme vous me disiez tout à l'heure, les femmes qui ont combattu, ils ont eu un certain égard. Ils avaient de l'admiration des autres. Donc, elles avaient accès à plein de postes de travail, d'ordre social, de... Donc, si vous voulez, elles ont lancé les bases sur lesquelles nous avons suivi, si on peut dire.
Mais par exemple, à l'école, Est-ce que les filles se retrouvaient, discutaient entre elles? Est-ce que certains cours étaient construits de façon à ce que les jeunes filles, justement, commencent à se dire « j'ai ma place à prendre dans la société algérienne » Comment toute cette prise de conscience s'est faite au travers de toutes les jeunes femmes algériennes? Parce que tu as l'air de dire qu'il y a maintenant beaucoup de femmes algériennes qui sont à l'université, beaucoup qui travaillent. C'est quand même un phénomène qui a touché pas seulement une toute petite minorité de femmes.
Oui, c'est vrai. Ça n'a pas touché une petite minorité. Maintenant, les filles, elles réussissent des fois mieux que les garçons et leur nombre est quand même impressionnant. Les filles ont pris conscience d'avoir leur place parce que en faisant des études, elles ont pris conscience qu'ils devaient avoir une place dans la société. Enfin, non seulement en faisant des études, mais c'est des êtres humains. Ils font partie de la société. C'est la moitié de la société. S'il n'y a pas de femmes, il ne peut pas y avoir de société. Donc,
Mais qu'est-ce qui a fait que tu es d'accord que jusque-là, les femmes, surtout quand on est pris dans la religion musulmane, qui est quand même une histoire longue, qui ne date pas d'aujourd'hui avec l'arrivée au pouvoir du Front islamique, de toute manière, la femme n'a jamais eu un rôle particulièrement public et n'a pas eu part aux responsabilités, n'a pas pu choisir ce qu'elle voulait faire de tout temps. Et tout à coup, vous, en Algérie, il y a une nouvelle génération de femmes qui dit « ça ne sera plus comme ça, nous on veut pouvoir travailler, nous on veut pouvoir décider ». Même des choses aussi individuelles et simples qui ne leur étaient pas accordées jusqu'à aujourd'hui, comme par exemple choisir leur propre mari. Et ça, vous avez réussi à l'obtenir à un moment donné en Algérie. Alors, comment ça s'est passé? Des femmes dans d'autres pays musulmans n'ont pas gagné ça, ne se sont pas gagné ça. Alors, comment les femmes algériennes, elles, ont réussi à faire ça? Pour toi, concrètement, je ne sais pas, dans ton école, est-ce que tu discutais avec des copines, avec tes profs, avec comment ça s'est passé pour ton quotidien à toi?
Je crois que le climat général favorisait ça. On a fait des études, c'est vrai, ça discute, on prend conscience de notre personne, de notre rôle dans la société. De ce qu'on veut faire de notre vie, de notre but dans la vie. Et je voudrais dire aussi que l'islam n'est pas à l'encontre de nos convictions, parce qu'en réalité, l'islam n'a jamais empêché les femmes d'aller à l'école, c'est plutôt le contraire. Il incite tout le monde, que ce soit homme ou femme, à conquérir des connaissances dans tous les domaines. Et c'est une première condition de l'islam. Il impose, il appelle les gens à s'instruire.
Thank you.